Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 29 septembre 2023, le 7 mai 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. La marine iranienne prévoit une base permanente en Antarctique pour des missions militaires et scientifiques. L'Iran a déjoué un complot d'assassinat en série contre des religieux, des juges et des membres du corps des gardiens de la Révolution. Et au Pakistan, au moins 52 morts après une explosion qui a frappé une procession religieuse. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le chef de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a présenté les plans de ses forces en Antarctique, notamment la création d'une base permanente pour des missions militaires et scientifiques. Notre futur projet est de hisser fièrement le drapeau iranien en Antarctique et d'entreprendre des efforts militaires et scientifiques collaboratifs dans cette région, a déclaré le contre-amiral Irani à la chaîne de télévision IRIB lors d'une émission marquant l'anniversaire de la guerre irakienne contre l'Iran de 1980-1988. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait établir une base permanente en Antarctique, Irani a répondu « Inch'Allah, si Dieu le veut ». Il ne s'agit pas uniquement d'un travail militaire, il doit y avoir un travail scientifique. Et nos chers scientifiques se préparent à mettre en œuvre un effort commun conformément aux lignes directrices du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a ajouté Irani. Le commandant a déclaré qu'un plan futur aussi ambitieux montre l'énorme potentiel qui existe au sein de la marine iranienne. L'année dernière, conformément aux directives du leader, nous avons essayé d'établir une forte présence maritime à travers le monde. Cela s'est accompagné de divers défis, le plus notable étant que nous n'avions aucune expérience d'une telle tâche, a déclaré Irani. Le commandant de la marine iranienne a ensuite souligné les tentatives persistantes de certains pays étrangers d'entraver la présence maritime de l'Iran, déclarant Dixit au sein de la marine, nous avons surmonté ces obstacles et ces peurs et avons pu accomplir l'immense honneur de déployer la 46e flottille de navires de guerre dans les eaux internationales malgré les conspirations étrangères. Fin de citation. Le ministre iranien de renseignement a annoncé que le pays avait réussi à déjouer un complot d'assassinat en série contre plusieurs religieux sunnites, juges et membres du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. S'exprimant lors d'un discours jeudi dans la ville sainte de Mashhad, Ismail Khatib a déclaré que le complot, qui devait être mis en œuvre le 30 septembre, avait pour but d'alimenter des différences ethniques et religieuses dans le pays. Les ennemis cherchent à créer de l'insécurité aux frontières orientales du pays, a noté Khatib, appelant à la vigilance des religieux chiites et sunnites ainsi que des autorités compétentes. Ces propos interviennent après que le ministère du renseignement a publié un communiqué annonçant que ses officiers avaient réussi à déjouer un complot visant à déclencher jusqu'à 30 explosions simultanées dans la capitale. 28 terroristes ont été arrêtés dans le cadre de ce complot qui visait les centres peuplés de la ville, indique le communiqué. Les explosions en question visaient à transmettre une fausse image de la prévalence de l'insécurité dans le pays, a semé le désespoir et la peur dans la société et a déclenché le chaos et les protestations, a indiqué le ministère. Le complot avait été conçu pour être mis en œuvre à l'occasion de l'anniversaire des émeutes de l'année dernière, soutenu par l'étranger, a-t-il déclaré. On vous lisait aussi en titre, au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessées dans une explosion dans la province de Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, selon les autorités locales. L'explosion s'est produite vendredi 29 septembre près d'une mosquée de la ville de Mastung alors que les gens se rassemblaient pour célébrer l'anniversaire de la naissance du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, a déclaré le commissaire adjoint local Ataoul Monim aux médias locaux. Le commissaire adjoint de la police des SP de Mastung, Nawaz Gashkori, qui était présent au rassemblement, figure également parmi les victimes. D'autres responsables ont déclaré qu'il s'agissait d'une explosion suicide et que le kamikaze s'était fait exploser à côté de la voiture du DSP. Ils ont déclaré que les blessés étaient transférés vers des hôpitaux et des établissements médicaux. Le nombre de morts risque de s'alourdir car certains blessés se trouvent dans un état critique. Les médias locaux ont cité les responsables pakistanais condamnant l'attaque et accusant les ennemis de vouloir semer le discorde dans la région. L'ennemi soutenu par l'étranger veut porter préjudice à la tolérance religieuse et à la paix au Baloutchistan, a déclaré le ministre par intérim de l'information du Baloutchistan, Jan Ashakzai. Les attentats à la bombe sont insupportables, dit-il. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Le président iranien et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ont condamné l'attentat et compati aux douleurs du peuple pakistanais. L'Iran prévoit de construire une nouvelle raffinerie de pétrole dans le gouvernorat syrien de Homs, d'une capacité de 140 000 barils par jour, dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec Damas et le gouvernement du Venezuela. Un haut responsable du ministère iranien du pétrole a déclaré qu'un mémorandum tripartite a été signé entre l'Iran, le Venezuela et la Syrie pour la construction d'une nouvelle raffinerie de 140 000 barils par jour en Syrie. Jalil Salari, directeur général de la Société nationale iranienne de raffinage et de distribution du pétrole, NIORDC, a révélé des projets soulignant le besoin pressant de produits pétroliers en Syrie et dans les pays voisins. Les études réalisées ont révélé que la Syrie et ses pays voisins ont besoin de produits pétroliers. C'est pourquoi une raffinerie d'une capacité de 140 000 barils par jour a été identifiée à côté des deux raffineries syriennes existantes à Homs et à Banias, a-t-il affirmé à l'agence de presse iranienne Fars News le lundi 25 septembre. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute dans notre commentaire politique. La coopération militaire russo-iranienne dans un nouveau monde multipolaire par Shabir Rizvi, analyste basé à Chicago. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est rendu à Téhéran le mardi 19 septembre. Il a tenu des réunions avec des responsables militaires iraniens de haut rang, notamment le chef d'état-major des forces armées, le général de division Mohammad Bagheri et le ministre de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani. L'objectif de cette visite était de mener des échanges de vues sur la coopération en matière de défense entre les deux alliés de longue date. Les deux pays ont toujours été la cible des agressions occidentales, des opérations de sabotage aux sanctions économiques destinées à paralyser leur système économique. Malgré vent et marée, l'Iran et la Russie ont résisté et ont mené des politiques indépendantes en renforçant leur coopération bilatérale et leur économie. Le durcissement des sanctions contre la Russie et l'Iran s'est avéré fructueuse dans la mesure où leur partenariat a atteint des sommets, a-t-il salué, cité par les médias iraniens locaux. La capacité de la République islamique à agir de manière indépendante et à créer une forte économie nationale malgré l'ingérence occidentale est très importante. Elle a récemment adhéré aux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ainsi qu'à l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai. Naturellement, il est important pour l'Iran de réfléchir aux affaires de sécurité afin de protéger ses intérêts au sein de ces organisations. Et la Russie est un allié naturel dans ce contexte, puisqu'elle est déjà membre des deux blocs. Dans un ordre mondial multilatéral croissant que beaucoup qualifient de multipolarité, ainsi que de fin de l'américanisme, voire le discours historique du président Ebrahim Raisi, la coopération basée sur la confiance et les intérêts mutuels s'avère importante. Cependant, les vestiges de l'ordre mondial unipolaire dirigé par les États-Unis, qui sont en déclin, tenteront de sommer le désordre tout en luttant contre ces nouvelles réalités façonnées par les nouvelles puissances émergentes. Les projets au sein des pays BRICS ainsi que des pays de l'OCS ont notamment fait l'objet de sabotages soutenus par l'Occident. Le plus important a été la destruction du gazoduc Nord Stream 2 qui a eu un impact sur la capacité de la Russie à livrer du gaz vers l'Europe occidentale. D'autres exemples sont à évoquer, comme les attaques terroristes perpétrées par le Parti islamique du Turkestan, PIT, sur le corridor économique Chine-Pakistan. Ces terroristes figuraient autrefois sur la liste noire américaine, mais ont été retirés car ils jouent un rôle dans la stratégie américaine de déstabilisation ciblée des pays. Le recours par les États-Unis à des stratagèmes pour mener des actes de sabotage et détruire des économies constitue une menace sérieuse pour le développement et la stabilité de la région, et l'Iran a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises quant aux agissements par procuration des États-Unis. L'intégration de l'Iran dans les BRICS et l'OCS indique qu'il devra prendre des mesures significatives pour renforcer la sécurité, alors que ce pays lui-même se lance dans des projets spécifiques destinés à faciliter le commerce dans la région, notamment un chemin de fer reliant l'Irak à la Syrie et la construction d'un important gazoduc reliant l'Iran et le Pakistan. Ces projets contribueront à faciliter l'indépendance régionale des pays et à les pousser à moins dépendre du commerce avec les pays occidentaux. Alors que l'Iran rejoint deux alliances économiques qui vont façonner le nouvel ordre mondial, ce qui peut entraver des projets régionaux soutenus par l'Occident.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les violences policières systématiques contre les Français ne cessent d'augmenter, donc, d'où les manifestations d'envergure organisées en France, dans les différentes grandes villes de France. Et bien sûr, selon beaucoup d'experts, ils étaient plus de 100 000 personnes à crier leur colère contre la façon dont la police gère la situation. Ils scandaient de slogans tels que les policiers sont partout, mais la justice nulle part. Nous allons essayer dans ce débat d'expliquer les racines de ces violences, mais également la colère des Français contre le racisme dans ce pays, à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi 23 septembre en France pour protester contre les violences policières lors de manifestations organisées par la gauche. Des affrontements ont éclaté en marge de l'événement parisien. La manifestation nationale a eu lieu un peu moins de trois mois après le meurtre à bout portant d'un jeune par un policier en banlieue parisienne lors d'un contrôle routier déclenchant plus d'une semaine d'émeutes à Paris et ailleurs. À Paris, des manifestations de tous âges ont brandi des pancartes sur lesquelles était inscrit « Stop aux violences d'État ». Ni oubli, ni pardon, ou encore la loi tue, avec une statue figurant la justice aux yeux barrés de rouge. Les manifestants visaient particulièrement l'article 43.5.1 du Code de la sécurité intérieure introduit en 2017 qui élargit la possibilité pour la force de l'ordre de faire feu en cas de refus d'obtempérer. Les manifestants répondirent à un appel de la gauche radicale, notamment de la gauche dure, la France insoumise, LFI. Les syndicats ont déclaré qu'environ 80 000 personnes avaient rejoint les manifestations dans toute la France, dont 15 000 à Paris, mais le ministère de l'Intérieur a estimé ce nombre à 31 300 dans tout le pays, dont 9 000 à Paris. Parmi les manifestants à Lille, dans le nord du pays, se trouvait Mohamed Leknoun, 27 ans, dont le frère Amin a été tué en août 2022 après avoir refusé d'obéir aux ordres de la police. Toute cette injustice détruit des familles, a-t-il déclaré à l'AFP. Il a déploré de n'avoir été informé d'aucune avancée dans l'enquête depuis la mise en examen du policier qui a tiré le coup mortel. La marche a eu lieu quelques jours après que l'IGPN, l'inspection chargée d'enquêter sur les fautes policières, a publié son rapport annuel sur le recours à la force par les policiers. Il montre qu'en 2022, 38 personnes sont mortes suite à l'action de la police, dont 22 ont été abattues. 13 de ces décès concernaient des cas de personnes refusant d'obtempérer.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Aïssar Midani, expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Damas. Madame Midani, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à tout le monde, bonjour à vos invités et surtout à tous les téléspectateurs.
Voilà, tout le plaisir est pour nous, Madame Midani. Un grand bonjour à Xavier Dupré, économiste et analyste des questions internationales, qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Dupré, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs, bonjour à Madame Milani. Et voilà, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous.
Un débat qui s'annonce prometteur donc, et je m'adresse à présent à Aïssar Midani qui est avec nous depuis Damas. Alors, en voyant des images de ce reportage, la violence policière systématique à l'encontre des manifestants tout à fait pacifiques, non pas des casseurs, mais des manifestants pacifiques qui réclament donc et dénonce la violence policière et le racisme dans ce pays. C'est un pays, Aïssar Midani, qui prétend être démocrate, la démocratie est partout, et dicte aux autres de suivre l'exemple de la France dans la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une surprise, Madame Midani?
Écoutez, je ne suis pas surprise du tout, parce que ça fait depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a une déferlante de violence, en fait, au niveau de la rue parisienne, c'est la rue française, dans toutes les villes d'ailleurs, qui est opérée par la police. En fait, ceci a été aggravé par les consignes que le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur a laissé libre cours aux gendarmes et aux policiers d'utiliser des armes à feu quand ils estiment que c'est possible ou qu'ils se sentent en danger. C'est un saut dans la violence, en fait, qui a été opérée. On se rappelle dernièrement l'affaire du jeune Naël qui a été tué parce qu'il conduisait une voiture sans permis et qui a refusé d'obtempérer alors que la voiture s'est arrêtée. Et en fait, on voit que le policier s'était introduit presque de sa tête dans la voiture et il a tiré sur le jeune homme de 17 ans, en fait. Hein, c'est pour peut-être une simple contravention par rapport à la loi de la route, en fait, au code de la route.
Oui,
Bon, on a
excusez-moi.
vu aussi
Oui.
le nombre de gilets jaunes qui ont été éborgnés, dont les mains ont été coupées, etc. Tout ça aussi parce que c'était des manifestations effectivement complètement. D'ailleurs, il n'y avait pas du tout de. Il n'y avait pas du tout de violence. La seule violence qui a commencé, ça a été la police qui a tapé sur les manifestants, où les manifestants demandaient en toute sérénité, ils demandaient l'amélioration des conditions de la retraite, les conditions de la vie, du travail, etc., mais aussi le rejet de cette réforme de la retraite qu'ils
Tout à fait,
mettaient,
oui.
qui
Oui.
allongeait de 2 ans la vie du travail.
Oui, nous
Donc,
allons. Oui.
c'est pas nouveau.
Oui, tout à fait. Avant de développer
Pardon.
cette question, Madame Midani, je m'adresse à Xavier Dupré, qui est avec nous depuis Bruxelles. Et vous non plus, vous n'êtes pas surpris, Monsieur Dupré, de voir ces images, cette violence systématique des policiers à l'encontre des manifestants pacifiques?
Non, parce qu'on assiste en fait. Plus globalement, hein, ce n'est pas le cas exclusivement en France, à une montée de ce qu'on pourrait appeler en Europe occidentale et en Amérique du Nord, donc un libéralisme libéral, en tout cas un néolibéralisme autoritaire. C'est quelque chose qui est très marqué aujourd'hui. Il y a de plus en plus devant les tensions sociales qui se multiplient, les questions de financement de l'État-providence, ben c'est des retraites en France, l'inflation. La répartition des fruits de la croissance entre capital et travail, avec une part qui est de plus en plus importante, qui est allouée au capital, qui est de plus en plus importante. Tout ça pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a une contestation de plus en plus évidente de ce néolibéralisme un peu partout en Europe et même aussi en Amérique du Nord. Jamais oublier que l'année dernière a été une année record en ce qui concerne le jour de grève aux États-Unis. Et face à cette contestation, une oligarchie financière et économique d'orientation idéologique clairement néolibérale répond par la répression des mouvements sociaux. Et on constate ça en France. Je trouve qu'il y a même quelque chose qui est de l'ordre finalement en France d'une espèce d'aggravation systémique. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu les Gilets jaunes, c'est un mouvement assez localisé dans la population française. Puis ensuite, on a vu de la violence policière non plus seulement contre les Gilets jaunes, mais contre finalement potentiellement l'ensemble du salariat, en tout cas de larges tranches du salariat qui étaient ciblées par la violence policière alors qu'elle manifestait et représentait la volonté de la majorité des salariés français qui désiraient que ce projet de réforme des retraites soit retiré. Et aujourd'hui, on commence à voir des jeunes qui se font contrôler. On parle parfois de jeunes qui auraient éventuellement un comportement un peu joyeux dans la ville un jour, des choses de la jeunesse, et qui se font passer à tabac, eh bien tout cela, ça dit quelque chose, ça dit qu'en fait, aujourd'hui, l'oligarchie qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir et d'autres gouvernements en Europe occidentale et en Amérique du Nord est prête à se retourner contre sa population. C'est un processus évidemment très inquiétant. Alors évidemment, ça contribue chez moi et chez beaucoup d'observateurs à relativiser la portée universelle des modèles sociopolitiques occidentaux tels que nous avons tendance en Europe et aux États-Unis à vouloir exporter clé sur porte partout dans le monde. Nous avons un modèle sociopolitique, il est ce qu'il est, il est à perfectionner, il est aujourd'hui en grand danger. Cela ne nous autorise évidemment pas à prescrire un type de démocratie qui serait valable pour le monde entier en toutes circonstances et en toute période de l'histoire. Nous avons à réparer d'abord, je crois, quand on voit toutes ces images en France et ailleurs en Europe, cette pression des services de police sur la jeunesse, sur les mouvements sociaux, ici dans mon pays, en Belgique, lorsque des syndicalistes bloquent une entreprise parce qu'il y a un gros conflit social, on leur met des amendes qui sont de l'ordre de 1 000 euros par jour. Ça veut dire qu'on dit à des travailleurs qui sont parfois privés de leur gagne-pain, mais de ne pas manifester leur désaccord, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ces amendes. Tout ceci me fait dire que l'appareil d'État aujourd'hui est endommagé, il a été victime, il est victime de métastases néolibérales qui sont en train de véritablement détruire le cerveau démocratique de nos sociétés. Nous n'avons donc qu'une seule chose à faire, c'est réparer l'état de nos démocraties, et ne pas chercher à imposer un modèle démocratique au monde entier. C'est cela que ça m'inspire. Mais nous vivons une aggravation de ces données. C'est de plus en plus prégnant, de plus en plus évident. Je me promène dans le centre de Bruxelles. La Belgique est un pays relativement tranquille. Et je vois régulièrement, alors qu'il n'y a ni manifestation, ni problème, la police monter sur des chevaux avec de grandes matraques. Et je crois que ça a un effet, ça a une fonction d'essayer tout simplement de faire peur à la population, d'instiller un climat de peur pour que la population ne revendique plus ses droits tant sociaux que politiques. Ça, c'est un début de passage à une forme de libéralisme autoritaire. Nous y sommes confrontés, c'est assez évident, c'est quotidien et c'est massif.
Absolument. Restez avec nous, je vous prie, Xavier Dupré. Nous avons d'autres questions à vous poser. Je m'adresse à Aïssa Armidani. Alors, Monsieur Dupré a presque tout dit. Le modèle occidental est en train de s'écrouler, si ce n'est pas déjà le cas. Une démocratie qui dicte au monde entier comment donc vivre, alors qu'on voit ces images, par exemple, qui ont fait le tour du monde, ont démontré le contraire, Madame Midani.
Oui, en effet, de toute façon, il est clair que les donneurs de leçons ne sont pas les premiers à les appliquer. Alors, depuis quelques années, la France et l'Europe, en fait, tout le modèle européen, ils sont le terrain d'un tas de répressions. Il y a des atteintes graves au droit de grève, atteintes graves au droit de manifester, atteintes graves à l'expression, au droit de l'expression. On voit que même sur le plan des médias, il n'y a que les médias qui répètent le narratif du gouvernement et de l'État qui sont autorisés à s'exprimer, et tous les autres, on les ferme. De toute façon, on sait qu'on a suspendu tous les médias syriens depuis le début de 2012. On a suspendu le média iranien. On a suspendu le média russe, Russia Today, de tous les pays européens. Tout ça, au nom de quoi? On ne sait pas. Et alors qu'ils se prétendent les défenseurs des libertés et ils donnent des leçons au monde entier, ils ont envahi la Syrie au nom de la liberté, soi-disant, envahi l'Irak au nom de la liberté aussi. Ils veulent porter la démocratie à tous ces pays qu'ils sont en train d'envahir et de détruire et de piller, parce que c'est ça l'objectif essentiel, c'est piller les richesses de ces pays en disant « on vient vous apporter la démocratie ». Et bien sûr, les États-Unis ne sont pas… on n'en parle même pas parce qu'ils sont les rois dans cette pratique. Et aujourd'hui, l'Europe qui suit… les pas des États-Unis et suit son diktat aussi en allant en guerre contre la Russie en soi-disant en prétendant aider l'Ukraine, ils entraînent tout leur peuple dans une guerre sans merci, sans avoir jamais consulté même pas l'Assemblée nationale, que ceci n'a même pas été discuté. Alors, de quelle démocratie on parle, en fait, si pour les choses importantes comme la guerre et la paix, la population n'est même pas consultée, ni la population, ni les représentants de la population, ni les représentants de l'État. Alors, de toute façon, la France, elle est gouvernée à coup de 49-3, en fait, tous les jours. C'est-à-dire, ce sont des lois qui sont édictées par le président sans consulter personne et sans que personne puisse s'y opposer. Alors, la démocratie n'est pas seulement aussi la répression, ou le manque de démocratie, ce n'est pas seulement le manque de répression, la répression dans les rues, mais c'est une atteinte à toutes les libertés, généralement, et ça, c'est vraiment très grave. J'ajoute quand même, quand ils ont mis en prison pratiquement ou en résidence obligatoire des milliers de personnes, des millions de personnes chez elles sous prétexte du Covid, hein, là c'est encore une très grave violation de la démocratie, ajouté au fait qu'ils aient exigé un vaccin qui n'est pas un vaccin, parce qu'ils ont exigé à tout le monde de prendre le soi-disant vaccin qui est une RNA de Pfizer qui était expérimental, et ils ont exigé à tout le monde de le prendre. Ils ont suspendu les travailleurs qui ne voulaient pas le prendre. Alors ça, c'est aussi une atteinte à l'intégrité des personnes dans leur corps. Et tout ça, c'est au nom de la démocratie. Alors, c'est quand même pas seulement, c'est en train de s'écrouler. À mon avis, c'est écroulé depuis longtemps. Et le pire, c'est que les valeurs qui tiennent auxquelles tient le modèle démocratique, elles se sont écroulées depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont en train de continuer à abattre cette société, ou les derniers droits qui continuent à exister de cette société, pour que les gens soient pieds et poings liés à ce qu'ils veulent en faire.
Xavier Dupré, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de Aïssa Hamidani? Vous avez donné raison à la population française de manifester et d'exprimer leur colère. Et d'autres propos annoncés par Aïssa Hamidani, est-ce que vous êtes d'accord?
Je crois que, si vous voulez, oui, non, il y a quelque chose. Je me rappelle, il y a 25 ans de ça, j'entrais à l'université et j'avais un cours qui parlait des institutions et j'avais choisi un texte du monde diplomatique qui s'appelait « Le libéralisme menace la démocratie ». Je m'en rappelle très bien et je me rappelle qu'à l'époque, on était très sceptique par rapport à ça, par rapport à ce choix, et j'avais dû tout réorienter, le monde diplomatique et l'université, ça c'est pas mon ménage. Et je suis bien forcé de constater que 25 ans plus tard, eh ben, finalement, ils avaient plutôt bien vu, c'était plutôt bien vu dans cet article. La montée des inégalités, la précarisation du travail, les inégalités sociales, tout cela est en train de poser en Occident les bases d'une crise qui, depuis la grande récession, la grande crise financière d'octobre 2008, est en train de poser un scénario, les bases d'un scénario qui ressemble de plus en plus aux années 30. Enfin, c'est évident, puisque on me dit que tous les médias sont censurés en France. Je vois quand même que, globalement, le système capitaliste occidental tolère dans son espace médiatique un ensemble de chaînes qui vont pointer le doigt sur les minorités, qu'elles soient religieuses, raciales. C'est typiquement le succès de CNews en France ou de Fox News aux États-Unis, des médias néoconservateurs, ultra-conservateurs, mais qui continuent à vouloir assurer la reproduction de l'impérialisme au niveau international et le maintien des inégalités en ordre interne au sein des différents pays concernés. Donc oui, effectivement, je crois que cette société est très en crise. Simplement, là où je serais plus nuancé, c'est que je pense qu'il existe deux démocraties en Occident. Elles sont concurrentes l'une de l'autre politiquement depuis la fin du 19e siècle. Il y a la démocratie bourgeoise, la démocratie de l'oligarchie, des parlements dans lesquels il n'y a pas un seul ouvrier, des parlements dans lesquels il n'y a pas une seule infirmière, des parlements dans lesquels il n'y a pas une seule femme de ménage. Ça, c'est la démocratie bourgeoise. Et de l'autre côté, en face, dans ce qu'on appelle la lutte des classes, il y a la démocratie ouvrière. Alors je pense que c'est vrai que ces dernières années, ces 40 dernières années, la démocratie ouvrière, la place des syndicats, les corps intermédiaires, les outils qui permettent à la majorité de la population occidentale de se doter de droits sociaux, ces instances-là, cette forme de démocratie-là, cette démocratie économique et sociale, celle-là a été clairement mise sous le boisseau, cachée, étouffée, et aujourd'hui, on la réprime. Mais elle continue à être active et elle pourrait potentiellement ouvrir le champ à des débouchés politiques qui seraient davantage émancipateurs. Si vous voulez, je continue à croire au projet. Je suis un occidental, je ne peux pas être autre chose que ça. Je ne peux pas me renier parce que je discute avec des gens d'autres cultures. Je le fais bien volontiers, mais je continue à croire pour ma société en des valeurs d'émancipation qui sont celles des Lumières. Je ne cherche pas, en revanche, je renonce à vouloir les imposer à autrui. Et je pense que quand on veut imposer les Lumières à autrui, à d'autres peuples, à d'autres pays, on est déjà finalement dans une forme de violence qui est étrangère au corpus idéologique des Lumières. Je respecte les autres peuples dans leur diversité, et je pense que si nous arrivons à contester nos élites qui se servent de nos valeurs, les trahissent, les travestissent à des fins d'impérialisme économique et financier, comme l'a très bien souligné Mme Midani, je pense que si les mouvements sociaux sont capables de dénoncer ces élites, eh bien nous pourrons continuer à, quelque part, ce modèle démocratique occidental, un modèle de démocratie économique et sociale, pourrait continuer à exister, mais cette fois-ci, ce serait une coexistence avec d'autres logiques politiques, d'autres modes d'organisation politique, et nous n'en serions pas... finalement, nous en tirerions beaucoup de bénéfices. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être quand même assez concret, ce projet d'expansion à toute la planète, d'extension, d'inclusion forcée de toute la planète à la démocratie bourgeoise occidentale est le fait de ce qu'a été l'hégémonie américaine après la chute du mur de Berlin. Or, aujourd'hui, je vois que cette hégémonie, elle s'exerce ici en Europe, contre nos intérêts d'Européens. Parce que je crains mal. Enfin, on peut se dire qu'aujourd'hui, le plus gros de la crise énergétique est passé, certes, mais les prix qui sont aujourd'hui sur du gaz, suite au conflit qui a quelque part été installé entre l'Ukraine, le peuple ukrainien et le peuple russe, que ce conflit-là, il a des conséquences économiques terribles en Europe, conséquences qui se traduisent d'ailleurs par une crise endémique de l'industrie allemande, c'est-à-dire le poumon économique de l'Union européenne, et qui dans les mois à venir, les années à venir, si les choses perdurent, vont se traduire par une montée des mouvements sociaux. Voilà pourquoi je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a tellement, si vous voulez, de facteurs de dérèglement, de désorganisation de la vie en société, qui résulte d'ailleurs de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que quelque part, des mouvements sociaux, des mouvements de protestation sociale vont être à ce point poussés et se multiplier que l'on peut raisonnablement espérer, et qu'une espérance de ma part, c'est une position politique d'ailleurs,
absolument.
On peut raisonnablement espérer une remise en cause de l'hégémonie idéologique néolibérale et donc atlantiste aujourd'hui en Europe occidentale.
Tout à fait. Bon, Xavier Dupré, analyste des questions internationales et économiste depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Issar Midani qui nous a accompagnés depuis Damas. Merci infiniment. Alors, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le retrait français du Niger. La France a enfin annoncé le rapatriement de son ambassadeur au Niger, ainsi que les derniers personnels diplomatiques présents à Niamey, a annoncé dimanche soir le président français Emmanuel Macron dans une interview télévisée. Le chef de l'État, qui assure s'être entretenu dans la journée avec le président déchu, Mohamed Bazoum, a également accepté la fin de sa coopération militaire avec le Niger. Ces annonces importantes interviennent alors que le pouvoir militaire nigérien avait donné fin août 40 victoires à l'ambassadeur de France à Niamey pour quitter son territoire. À compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulés, déclaraient les nouvelles autorités dans un communiqué de presse. Au lendemain de l'annonce par la France du retrait de ses troupes du Niger, les États-Unis disent vouloir étudier toutes les mesures envisageables concernant leur présence militaire dans ce pays africain. Washington va étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire au Niger, a déclaré lundi 25 septembre le secrétaire américain à la Défense après l'annonce de la France du retrait de ses troupes du pays d'ici la fin de l'année. Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, dans les prochaines heures, et le retrait du Niger des 1500 troupes françaises basées dans le pays d'ici la fin de l'année, deux exigences des militaires ayant pris le pouvoir le 26 juillet. Emmanuel Macron a également annoncé que la France mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Lors d'une conférence de presse lundi soir, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a précisé que Paris maintenait par ailleurs son soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par le coup d'État de juillet, et sa volonté d'un retour de l'ordre constitutionnel au Niger, en plein appui aux efforts de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. À Nairobi, le secrétaire américain à la Défense a refusé de commenter les annonces de Paris. « Nous n'avons apporté aucun changement significatif au positionnement de nos forces et nous souhaitons réellement une solution diplomatique, une issue pacifique », a déclaré Austin, dont le pays dispose de quelques 1100 soldats stationnés au Niger. Le Pentagone avait annoncé le 7 septembre repositionner ses troupes par précaution, transférant certains soldats d'une base de la capitale Niamey vers une base aérienne plus au nord dans la région d'Agadez. Nous allons étudier les conséquences du retrait des troupes françaises du Niger, mais pour le moment, nous nous concentrons sur la poursuite de ce repositionnement, a précisé Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone. Les États-Unis ont indiqué le 14 septembre reprendre leur vol de surveillance au Niger qu'ils avaient interrompu après le coup d'État, le reste de leurs opérations militaires dans le pays restant figé. Par ailleurs, le mercredi 20 septembre, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius annonçait pour sa part que le départ des soldats allemands se poserait si les troupes françaises quittaient le Niger. Si les unités françaises venaient à partir, la question du retrait serait pour nous plus vive. Il nous faudrait de nouveau y réfléchir, avait-il ajouté. Une centaine de militaires allemands sont actuellement déployés avec des troupes françaises sur la base aérienne nigérienne de Niamey, dont certains sont affectés à une mission de coopération avec le Niger, mais aussi dans la formation de l'armée nigérienne. L'annonce du retrait des troupes françaises était saluée par plusieurs Nigériens interrogés dans les rues de la capitale où plusieurs manifestations hostiles à la présence française ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes ces dernières semaines. Il faut que les militaires français quittent immédiatement le pays puisque vraiment on n'a pas besoin d'eux, a affirmé Marzouk Doula à l'AFP dans le quartier populaire de Yantala proche de l'ambassade française. Ils disent qu'ils nous aident mais on n'a vu aucun changement, a-t-il précisé. Un point de vue partagé par un autre habitant, Abdel Kari Hassan Makanou. Ça fait très longtemps que la France a amené son armée ici au Niger, mais ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme, a-t-il précisé. La junte au pouvoir à Niamey a célébré dimanche soir une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Le CNSP au pouvoir au Niger a pris acte de la décision de Paris de rappeler son ambassadeur et attend désormais des mesures concrètes. Quant au retrait des militaires français, cela doit se passer dans un cadre négocié, ont déclaré les généraux au pouvoir au Niger. Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que le calendrier du retrait doit être fixé dans un cadre négocié et d'un commun accord, écrit l'édition française de l'agence de presse Sputnik. Cette déclaration intervient après que le président français Emmanuel Macron a annoncé le 24 septembre le retrait prochain de l'ambassadeur de France de Niamey et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Le gouvernement nigérien a salué l'annonce de Paris mais attend désormais des mesures concrètes de la part des autorités françaises. Les relations entre Paris et Niamey se sont détériorées depuis que l'armée nigérienne a renversé l'ancien président pro-occidental Mohamed Bazoum lors d'un coup d'État le 26 juillet. Paris a refusé de reconnaître les nouveaux dirigeants du Niger et continue d'exiger la restauration du président déchu Mohamed Bazoum. Toujours en août, les généraux ont dénoncé plusieurs accords de coopération militaire. La France compte actuellement 1500 soldats stationnés en Niger dans le cadre de la soi-disant lutte antiterroriste. Avant le coup d'État du 26 juillet, le Niger comptait l'un des derniers alliés de Paris dans le Sahel. Les troupes françaises ont dû déjà se retirer du Mali et du Burkina Faso sous la pression des gouvernements militaires qui ont pris le pouvoir dans ces deux pays. Après le départ de l'ambassadeur français de Niamey, des milliers de Nigériens se sont rassemblés ce mercredi 27 septembre au centre de la capitale Niamey en célébrant le départ de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, du Niger. Les festivités à Niamey se sont déroulées par un concert de musique du groupe Gumbi Star, auquel des milliers de personnes ont assisté gratuitement. Les chanteurs et les spectateurs ont chanté ensemble « Nous avons besoin de Chiani ». Président du Conseil de défense nationale, le général Abdulrahman Chiani. Ce mardi 26 septembre, Paris a confirmé que l'ambassadeur du pays avait quitté le Niger. Le Conseil militaire du Niger avait précédemment levé l'immunité diplomatique de l'ambassadeur français et a ordonné à la police de l'expulser du territoire nigérien après un délai de 48 heures. Un ultimatum refusé par Paris. Plus tôt dans la journée, des sources diplomatiques françaises et une source gouvernementale nigérienne avaient indiqué que l'ambassadeur de France au Niger avait quitté la capitale Niamey aux premières heures de mercredi 27 septembre. Le président français Emmanuel Macron a finalement reconnu dimanche 24 septembre sa défaite au Niger et annoncé qu'il mettrait fin à la coopération militaire avec ce pays africain et en retirerait ses forces dans les prochains mois.
We'll be right back.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.